Asseyez-vous. C'est parti pour un voyage sonore authentique, à la rencontre des arts et des artistes. Du vent dans les pages sillonne Marseille et ses environs avec curiosité. On met le cap sur la poésie, littérature, photographie, peinture, art de la rue, art du cirque, théâtre, danse contemporaine. Appuyez sur pause. Avec un peu de chance, avec un doux hasard, on convoque l'humain, l'audace, le portrait, la parole vraie. Du vent dans les pages, déambulation marseillaise.
Du vent dans les pages, avec Chloé. Sensible
rencontre
avec Masha Makeyev. Exposition Trouble Fête. Collection curieuse et choses inquiètes.
Alors, si on veut paraître intelligent et chic, on va dire c'est une affaire de site spécifique. C'est-à-dire que c'est les Trouble Fête. C'est une aventure, c'est un récit immobile qui se pose ici ou là où on l'invite. Alors, il a été invité à la maison Jean Villard à Avignon. Et puis cette année, il est invité dans un endroit magnifique, place de l'Archevêché, le musée des tapisseries à Aix-en-Provence. 7 grandes salles, et j'ai déposé ce récit. Je l'ai réinventé pour ce lieu-là. J'ai convoqué les fantômes qui étaient déjà là. J'ai rassemblé les animaux du Muséum d'Histoire Naturelle qui étaient déjà mes compagnons à Avignon. Et j'ai étendu, parce que c'est tellement grand et tellement beau et tellement solennel, j'ai étendu le récit à d'autres espaces et donc à d'autres fragments du récit.
La voix, c'est Masha Makeyev. Au commencement, il y a ce qu'on connaît d'elle. Masha, c'est d'abord une trace, une trajectoire, un parcours qui la devance. C'est vrai, au commencement, il y a ce qu'on connaît d'elle, ou ce que l'on croit en connaître. Mais elle est bien plus que tout ce qu'elle a déjà fait, ou tout ce qu'elle a déjà dit. Entre autres, 2 rencontres tutélaires dans sa vie l'ont poussée vers le meilleur d'elle-même. Bien sûr, Antoine Vitesse, le metteur en scène. Et l'autre évidence est celui qui partage son œuvre et sa vie, Jérôme Deschamps. Des décennies sur scène ensemble, et à deux, toujours, ils inventent les années des chiens qui ont marqué toute une génération. À cette époque des chiens sur le plateau et devant les caméras de Canal+, les ont rejoints dans leur champ créatif entre autres François Morel et Yolande Moreau. Puis Masha Makeyev, toujours à la croisée des arts, va affiner sa place de metteur en scène, scénographe et costumière, rigoureusement demandée au théâtre, mais aussi à l'opéra. Elle est sollicitée pour de nombreuses expositions et productions en qualité de plasticienne. Côté cinéma, Jérôme Deschamps et Masha Makeyev s'associent encore pour la sauvegarde des œuvres du cinéaste Jacques Tati et fonde en 2001 les films de mon oncle. Masha Makeyev ajoute à cela un talent et un goût pour l'écriture et est publiée en tant qu'auteur chez Actes Sud. Elle reçoit l'Ordre National du Mérite et l'Ordre de la Légion d'Honneur. On récapitule ? Metteur en scène de théâtre, d'opéra, réalisatrice, costumière, scénographe, plasticienne, auteur et depuis 11 années, directrice du Théâtre de la Criée, le Centre Dramatique National de Marseille. Elle vient d'ailleurs de mettre en scène un nouveau spectacle, Tartuffe de Molière, en tournée en ce moment. À Marseille, Masha est appelée par son prénom, en toute simplicité et avec le plus grand respect. C'est l'âme du lieu qui reçoit, conçoit, s'appuie sur, compte avec, est artisan de vision, partage une programmation, fait que les Marseillais aux mille visages des Méditerranées viennent, reviennent, trépignent, chuchotent dans le hall, écoutent dans les gradins, croisent les jambes dans l'un des fauteuils qui patientent à l'étage et participent à une création perchée sur le rebord du monde du spectacle vivant. Allez, attention, c'est pour maintenant. Aujourd'hui, rencontre déambulatoire avec Macha pour son expo itinérante qui découle de l'installation à la Maison Jean Villard, de son livre « Zone céleste » publié chez Actes Sud, de son spectacle musical « Lévis versus Alice » qu'elle a monté en Avignon. C'est aussi sur invitation de la ville d'Aix-en-Provence, au musée de l'Archevêché et enfin au Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Voilà, vous savez un peu de la surface des choses sur son chemin. On va entrer. Cette expo, c'est un peu de l'histoire de sa vie. Comme dans Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, il faut les bonnes clés à hauteur du rêve éveillé de l'enfance pour ouvrir les portes de l'imaginaire. Pour recevoir l'esthétique Macha, il y a quelques données perso que vous ne devez pas ignorer. La première chose que vous devez savoir est que ses grands-parents étaient tous deux officiers du tsar Nicolas II de Russie. Cette famille de Russes blancs fut un puzzle en miettes après le chaos de la Révolution. Il en faudra de l'art et de la résilience pour faire sens de cet héritage. Faire les valises, être dépossédé, le drame, la fiction, l'insécurité, puis faire un pas de côté pour réenchanter le réel. Mais les fragments du monde du passé, c'est aussi pour Macha être peuplé de 8 frères et sœurs et vivre avec la main lâchée du petit frère, le numéro 7, Georges. Nous y sommes. Deuxième révélation de cette exposition. Georges, le petit frère dont elle était si proche et dont l'enfance ne passera jamais et dont ce qu'il aurait pu devenir manquera sans doute toujours. Georges qui s'est absenté des bruits du monde, à qui la transformation fut refusée et qui est entré trop jeune dans la solitude de la pathologie. Bien, il est temps. C'est parti pour une invitation chanceuse à avoir pour guide Macha Makeyev sur les énigmatiques pièces de son exposition. Le titre, Troubles faites, collection curieuse et choses inquiètes. Si vous voulez, c'est une sorte de collection personnelle. Un poème en 7 pièces. Un spectacle immobile, comme dit Macha, à la croisée des arts, avec ses espaces enchanteurs comme autant de petites alcôves à secrets, à trésors, où le règne de choses, d'animaux, de fourrures, d'étoffes, de sons, d'images, tout fait narration, hommage, loin, très loin de la surface des choses, à leur juste place, de part et d'autre, du miroir d'une vie. Je peux vous dire qu'on est dans cette proposition d'installation comme au cœur d'un parcours onirique, poétique, elliptique, comme un remède aux cauchemars et aux effondrements, avec ce que la vie a de plus vrai, sa part de fantaisie et d'imaginaire qui pousse le réel aux aveux. Alors bien sûr, les choses vous rattrapent et résistent. Trahison, disparition, les deux manteaux tristes. Alors question, que reste-t-il vraiment quand tout est déplacé ? Qu'est-ce qui remplace vraiment ce qui ne peut l'être? Les présences, les histoires qu'on se raconte et les histoires qu'on fabrique pour les autres. Voilà, il me reste à vous la décrire un peu, cette Macha et son vol de funambule fragile et forte à la fois et l'artiste plein de magie au-dessus du lit des troubles. On y va? un grand imperméable beige et Macha tout entière dedans. Sa simplicité arrive en même temps qu'elle, à tout petits pas, du velours discret. Elle a à cœur de se rendre disponible, attentive, élégamment attentive. On voit ses yeux bleus qui attachent de l'importance aux êtres, une considération qui déplace la surface, qui invite à donner le meilleur, à être le meilleur. Et tant pis finalement, alors oui, tant pis, si on a juste fait de son mieux. Et tant mieux si ce n'est ni formel, ni attendu. Son carré blond se retourne, car elle nous devance, Macha, et on entre dans son royaume.
Bonjour, ça va bien?
Alors on arrive ensemble.
C'est formidable. Vous allez bien?
Oui, ça va. Et vous alors? Avec toutes ces répètes.
Oui, c'est là, on rythme maintenant. Et on monte le décor, et l'essentiel est là.
Donc les caisses sont déballées.
Ah oui, c'est le décor est déjà en place.
Déjà
j'ai
posé.
Un régisseur général qui est formidable. Et... Une fée. Il n'y a pas de fée au masculin. Je devrais inventer fée au masculin. Un fée. Allez, c'est un fée. Parce que elf, c'est autre chose.
Donc là, on rentre dans le palais avec Macha. Le rideau d'entrée de l'exposition pour Troubles Fêtes, collection curieuse et choses inquiètes.
Alors, il y a 7 grandes salles. Donc là, ça s'appelle Désastre Désir. Désastre parce que, à l'origine de tout, il y avait les récits de mes grands-parents russes blancs, et notamment ma grand-mère, Olia, qui me racontait le chaos russe, la révolution, la perte des choses, des êtres. Et j'imaginais tous ces objets un peu comme ça, flottants, et pourquoi ils avaient emporté ça et pas ça. Et puis ces objets qu'on avait échangés, qu'on avait perdus, qu'on avait égarés, qu'on nous avait volés, toutes ces choses, ces récits. Et ça a commencé comme ça, parce qu'ils n'en parlaient pas dans la journée, jamais, mais le soir, ma grand-mère hallucinait toute seule dans sa chambre avec une cigarette interdite, mais une cigarette et ses cheveux défaits me racontaient ça. Le récit, la fiction est venue comme un héritage. Et à cause de ces récits-là, il m'a fallu, moi, désormais aussi, pour supporter tout ça, je me rendais compte qu'elle racontait et que moi aussi, j'allais me sauver de plein de choses dans mon enfance difficile en racontant, en passant déjà de la côté de la fiction et en me racontant mes propres histoires. Donc ici, on voit un grand chaos d'objets que je trouve beaux, assez 18e, qui sont un mélange de choses que j'ai trouvées dans les caves du musée, et puis des accessoires d'opéra et de théâtre, et mélangés. Et on entend tout de suite, dès qu'on entre, la voix d'une soprane, et c'est parce que vous verrez que dans les 7 salles, il y a une spatialisation du son, la musique et le son composés par Christian Sebi du GMEM, qui a fait cela pour précisément ce récit. Donc voilà, ici ou là, vous avez des vitrines aussi avec des reliques. Et dans chaque lieu, il y a des reliques. Ici, il y a les mâchoires de l'histoire qui se referment sur Nicolas II. Et puis, toujours une allusion au théâtre et à la fiction. Et là, un costume de cosaque, qui est un cosaque d'une opérette 19e. Et je fais se croiser, bien sûr, l'histoire qui a eu lieu, qui aurait eu lieu, qu'on m'a racontée et que j'ai ressentie, et celle qui est déjà une fiction. Voilà. Bien sûr, jamais ne perdre le sens de l'humour, puisque vous verrez, j'invite aussi Lewis Carroll. C'est pour ça qu'à l'entrée, j'ai mis « C'est pour de rire », disent les enfants. Ils sont à l'exact point de vue juste sur le monde. C'est-à-dire, ils sont entre les larmes et l'éclat de rire. Mais on fait les premières fois les gestes du théâtre comme pour de rire.
Et il y a dans ce tableau que vous nous dépeignez, dans cette transmission-là, quelque chose de justement de l'oralité, du conte, de la fable déjà, d'un réel qui soit transmis aussi par...
Oui, c'est-à-dire que tout de suite c'est une métamorphose. C'est-à-dire le fait d'écouter seulement quelque chose se transforme. Et après tout, le théâtre, c'est ça aussi. Ce que l'on propose, ou comme ici, ce récit que j'appelle le récit mobile, où c'est le spectateur qui bouge, eh bien, c'est précisément la part, le pas de l'imaginaire de l'autre qui fait que les choses se transforment. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et à chaque fois, ce qui m'intéresse dans la peinture, ce qui m'intéresse dans, vraiment quand je suis face à une œuvre, et c'est cette part de... Cette bonne distance que nous propose l'artiste pour aller vers son imaginaire, mais en transportant le nôtre aussi. Et cette chimie-là me paraît être, moi, mon ombre sacrée, vraiment.
Quelque chose comme une bulle, vous savez, d'oxygène qui remonte à la surface de l'eau un peu. Mm-hmm. Et il y a dans tout ce que vous donner à entendre, à voir, à réaliser avec la notion d'espace aussi. Vous travaillez beaucoup avec la danse, avec la lumière, avec le son, on y reviendra. Et tout ça fait compte. Il n'y a pas qu'un médium.
Ce qui m'intéresse, c'est exactement ça. C'est que le théâtre, ou ce théâtre immobile, ce sont des arts plastiques, après tout. Et on y entre soit, bien sûr, par une forme de l'intelligence, pourquoi pas, s'il y a du texte, il y a un chant, on peut percevoir le sens des mots, mais après tout, c'est plus tactile que ça, c'est plus sur la rétine, c'est plus dans les os, c'est plus... Il y a plein de résonances de l'ordre de l'émotivité, presque. Et ça déclenche chez celui ou celle qui regarde, ou celle qui écoute, quelque chose d'une vibration très corporelle. Et l'imaginaire est très incarné aussi de ce point de vue-là. C'est ça qui m'intéresse, c'est cette vibration-là. Puis ici, en plus, il y avait déjà un propre récit de tapisserie absolument magnifique, avec Don Quichotte, la série de Don Quichotte. Et avec, là, à chaque fois, François Menoux a éclairé l'exposition. Et je lui ai demandé de faire ressortir les rouges, puisqu'on est dans la Russie chaotique, la Révolution, c'est-à-dire la grande histoire qui vient fracasser l'intimité des êtres. Alors évidemment, on a fait ressortir ces rouges sublimes de cette tapisserie. Et en même temps, chaque tapisserie, vous verrez, c'est évidemment une allusion très théâtrale. Il y a une scénographie formidable, là, cette fois-ci, avec des rambardes, des monticules. Et puis, bien sûr, un bestiaire, parce que vous allez voir à chaque fois, moi j'invite Lewis, j'invite Georges, mais j'invite aussi plein d'animaux, ceux du Muséum d'Histoire Naturelle de la ville d'Aix, et puis aussi mes propres animaux qui ne me quittent pas, naturalisés bien sûr. Et ici, vous voyez quand même, là, comme par hasard, il y a vraiment un dialogue entre ces bêtes-là qui se sont invités dans les tapisseries. Alors ici, voilà, le chaos, puis bien sûr mon cerbère, qui, voilà, ça fait partie d'un de mes animaux qui ne me quitte pas, qui est toujours à l'atelier, très souvent sur scène aussi, ou dans le hall de la criée, il se promène, ou à la fabrique, il n'est jamais très loin. Et j'ai récupéré une des grilles de mon exposition Venise. J'aime beaucoup que les choses aussi qui ont raconté les accessoires de théâtre circulent et se mettent à raconter autre chose et ailleurs.
Cette invitation et puis ce qui existe là sous nos yeux, qui parle quand même, ben, encore une fois, d'une certaine fable, de poésie toujours, de quelque chose d'illusoire par rapport à une incarnation de réel. Et finalement, on est aussi face à votre proposition d'un certain chaos, d'une certaine faille aussi.
Vous avez raison, il y a de la violence.
Bien mythologique, enfin, on a tout.
Qui regarde la tortue, qui est vraiment l'animal objet par excellence, celle qui dit l'intemporalité. Donc voilà, entre le cerbère et elle, il y a probablement une conversation qu'on peut imaginer. Et puis c'est quand même aussi une autre voie pour raconter quelque chose de la violence. Et bien sûr que tout commence par quelque chose qui s'est brisé, qui s'est perdu, qui est violent, qui a bousculé les êtres et cassé quelque chose. Et c'est pour ça aussi que sur une des bergères, il y a un costume de cantatrice complètement défait. C'est très beau l'usure aussi, c'est très beau. Ma grand-mère avait emporté de Russie très peu de choses, puisqu'elle était elle-même officier, mais elle avait toujours emporté des fragments de tissu, comme si c'était par les tissus qu'on racontait comment était le monde avant. Donc je suis très sensible, bien sûr, au tissu. Elle m'en avait offert quand j'étais toute petite. Voilà, donc ici, c'est l'héritière, une héritière qui va se sauver. Et j'ai mis quelque chose qui serait peut-être mon épitaphe, qui est Vassili Joukovski. C'est un poète que Bulgakov aimait particulièrement. poète russe, et la vieille princesse restera avec ses larmes parmi ses coffres, à manier ses menus objets et à remuer ses souvenirs. Je me vois très bien mourant dans des vieilles caisses avec plein d'accessoires de théâtre et des costumes.
Et finalement, toujours cette notion de toute façon de voyage et de continuité, puisque,
et puis,
quoi qu'il en soit, ce que vous avez donné existe. Et voilà, il y a la temporalité qui est toujours bouleversée aussi dans votre travail.
Vous avez raison, l'espace-temps, de toute façon, déjà au théâtre, qu'est-ce que c'est que cet espace-temps? Ce qui fascine les gens, bien sûr, c'est ce qu'ils voient, mais c'est ce qu'ils ressentent, c'est qu'on est ailleurs. Cet ailleurs est incroyable, enfin, il est inédit chaque soir. Voilà. Alors, il y a les deux thématiques, bien sûr, toujours les reliques, et aussi, bien sûr, les choses de l'enfance. Alors là, évidemment, c'est une enfance fracassée, parce que dans ma famille, on a laissé 4 enfants qui étaient mes oncles et tantes en Russie, dont on n'a plus jamais eu de nouvelles, qui ont été perdus, comme on dit, dans la Révolution, dans la guerre civile. Et donc, sans arrêt, je les transporte aussi avec moi, et j'essaie, voilà, de raconter ça, mais sans jamais être solennelle, touchée, mais c'est comme pour de rire.
Cette petite fille intacte, enfant irréductible, est là, incluse en moi, et ma vie passe et la petite fille en alerte demeure, vigie de mes rêves, de mes actes. Elle impose la marche des choses, l'intrigue de mes jours, elle est ma douleur et ma grâce. Ce monde où j'allais ne t'accueillait pas, tu n'avais pas de place dans la ronde. Nous serons, toi et moi, des enfants inconsolables et méfiants. J'ai maudit le sabotage, l'inutilité de cet arrachement. Séparés de toi, j'ai compris que nous étions l'un et l'autre deux petits mortels.
J'ai à mes côtés une fée qui me dit de pas dormir. Un jour, de douleur, j'ai crié. Elle a dit, il ne faut pas pleurer.
Où se laissait-il tomber l'enfant du tabouret rouge? Dans quel rêve? Dans quel monde? Pour rejoindre quoi? Sur le carrelage jaune de la cuisine? Le tabouret en formica comme estrade? Tu dirigeais un orchestre imaginaire. Carré rouge terrible. D'où tu te laissais tomber?
J'ai à mes côtés une fée qui me dit de pas dormir. Un jour, de douleur, j'ai crié. Elle a dit, il ne faut pas pleurer.
Je me rappelle ton bras sur le front d'enfant de 4 ans, mon émotion devant ton geste de crainte. Rien ne meurt de ce que l'on a aimé ou redouté dans cette année d'enfance.
Alors là, on est dans la deuxième chambre. J'aime bien le mot chambre, parce qu'on est dans un palais, j'ai l'impression qu'on va de salle en salle, mais aussi de chambre en chambre, dans cette enfilade. Alors là, il y a vraiment un contraste, et je voulais ça pour le public. Je voulais vraiment qu'on passe de cette Russie ancienne, imaginée, racontée, aux années 60. Donc c'est une pièce que j'ai pu repeindre, donc il y a les couleurs de Trouble Fête. Et puis là, j'ai posé ce qui est un peu le triomphe du plastique. Quand j'étais petite, je quittais l'appartement parce qu'on m'avait posé chez mes grands-parents avec mon petit frère. Et je sortais de cet univers fermé, clos de gens et d'un monde qui n'existait plus, à cette modernité des années 60 où il y avait toutes les couleurs, la matière plastique et soi-disant quelque chose qui allait être le bonheur, qui était joyeux, le confort joyeux qui allait vous rendre heureux. Évidemment, on se rend compte assez vite que tout ça n'est pas tout à fait la réalité. Et en même temps, ici, comme toujours, le théâtre est présent. Donc il y a la mini-comtesse, cette petite voiture tout en plastique qui a joué dans Ali Baba, dans laquelle qui accueille un castor. Et puis le vase d'Ali Baba. Et puis je travaille déjà sur la dualité de chaises avec lesquelles j'ai fait beaucoup de spectacles et de vidéos. Et aussi des choses en double. Parce que ici, si j'ai invité Lewis Carroll, puisque le Trouble Fête a été imaginé en même temps que Lewis versus Alice, d'après l'œuvre de Lewis Carroll, j'ai aussi invité Georges. Et Georges Et j'ai appelé Lewis, Georges et la petite fille. C'est le titre de cette salle, parce que je pense que nous sommes cousus tous les trois. C'est-à-dire que Lewis, le grand poète, après tout, a raconté le scandale qu'était d'avoir grandi. Il fait dire à Alice, « Mais quel âge avez-vous, Alice ?» On lui demande-t-on. Alors elle dit, « J'ai 7 ans et demi. » Il dit, « 7 ans et demi mais non, il fallait que ça s'arrête à 7 ans, c'est trop tard, maintenant, trop tard, trop tard. » Et on lui fait même savoir que c'est pas tout à fait sûr qu'elle existe, puisqu'elle est dans le rêve du roi. Et ces deux endroits-là sont très présents ici. On ne sait pas vraiment si c'est réel ou le rêve. Il y a même des objets soviétiques des années 60 que j'allais retrouver bien plus tard en Russie. Je voulais savoir ce que c'était devenu aussi. Et Lewis, Georges, c'est ce petit garçon qui a sombré dans une psychose infantile à 4 ans, sous mes yeux. C'était mon petit frère, mon premier compagnon de jeu. Et qui lui aussi écrit sans arrêt le même récit d'une petite fille qui se perd, qui n'est pas accompagnée, qui est perdue dans la forêt et qui est en danger. Et voilà que je les invite tous les deux, parce que je pense vraiment que la petite fille, c'est pas simplement une petite Alice. La petite fille, c'est un transgenre. C'est-à-dire que c'est un point de vue définitif, extrêmement exigeant que l'on a enchâssé en soi et qui fait qu'on regardera toujours le monde depuis ce point de vue très exigeant. Et elle est assez impérieuse, cette petite fille qui est ancrée en nous. Et il y a des êtres, que ce soit un poète du 19e siècle ou que ce soit un jeune homme qui a vieilli mais qui restait un enfant éternel, que ce soit ces êtres-là ou moi quand je fais du théâtre, nous sommes à cet endroit-là, dans un transgenre. De ce point de vue-là. Alors, dans cette salle, j'ai mis évidemment beaucoup de matières plastiques dont je fais l'éloge, mais aussi des récits de la vie de Georges. Par exemple, je m'adresse à lui, Georges, tu es gaucher, j'écris à l'envers. Il se trouve que je me suis autorisée à dire ça puisque Lewis Carroll lui-même écrivait à l'envers. Et moi, c'était, et même aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, voilà, 1960, et puis des choses, des allusions à Alice aussi. Et puis, bien sûr, l'alerte depuis la petite enfance, depuis justement le drame de mon frère et depuis aussi ce que j'ai ressenti à ces moments-là de ma vie qui ont été assez cruels. Évidemment, j'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait rester en alerte et j'ai longtemps perdu le sommeil et j'avais toujours l'impression que c'était pour ça que le décor de Lewis était comme ça, que la maison n'avait pas de toit et que je ne serais plus jamais vraiment protégée. Donc voilà, mais tout ça, évidemment, toujours un contrepoint de couleurs, de matières plastiques, de récits. Il ne faut jamais s'arrêter à ce qui pourrait être un chagrin insondable.
Ce monde où j'allais ne t'accueillait pas, tu n'avais pas de place dans la route.
Moi, j'ai toujours griffonné, toujours. Dessiner, écrire, je ne sais pas trop la différence. Et puis après, moi, je ne sais pas, je suis pas. J'ai une telle. Comment dire. Une telle admiration pour la littérature que je pense que celui ou celle qui n'y consacre pas sa vie a à peine le droit d'écrire. Donc j'attends que quelqu'un me dise bon, vous faites un livre là-dessus, alors là j'y vais. Voilà. Mais c'est vrai que je ne prends pas trop l'initiative.
Les objets sont un langage chez vous, ils ne sont pas seulement quelque chose quoi, qui est une représentation posée. Vous parlez de matière, certes, ça restitue ça, mais il y a toujours un prolongement, il y a toujours quelque chose d'un petit peu, pas dans le symbole, mais il y a, qui échappe aussi à la définition simple ou des choses posées.
Alors ça, c'est pour ça que les installations, expositions, c'est très important, parce que les choses se mettent à parler que s'il y a une bonne distance entre eux, comme entre deux êtres. S'il y a quelque chose qui se transmet entre deux objets. Alors là, ça se met à raconter. Il se trouve, vous poussez l'objet de 20 cm, ça ne marche pas. Et vous dites, mais pourquoi cet endroit, ça ne marche pas? Et vous le déplacez. Et ils se mettent à dire ensemble quelque chose. C'est ça qui m'intéresse, c'est ce qui est concertant dans une même pièce, dans un même espace. Ce qui est concertant entre les objets, puis quand je dis objet, c'est très ouvert. Hein, c'est aussi... Une chose écrite sur un mur, c'est pour moi un objet plastique aussi, au même titre. Alors il y a toujours des reliques aussi, bien sûr, et puis j'ai beaucoup aimé poser les quatre chaises comme ça,
écossaise en matière plastique, face à 4 pages du journal d'un des livres de Georges, mon frère qui écrit tout le temps la même histoire. Donc, si vous voulez, on s'approche et le public peut s'asseoir et prendre le temps de lire.
Elle lâche sa belle rose, met ses mains sur ses yeux, lui éclate un petit sanglot. Pauvre petite fille triste. Le ciel est un peu jaune. Je suis née dans la tristesse. Cette merveilleuse région dont je suis arrivée. Je suis bel et bien tombée là. Mais malheureusement, je me suis tout de suite rendu compte qu'il n'y avait point de monde autour de moi en l'honneur de ma naissance.
Et sur le coup, elle lâche sa belle rose, met ses mains sur ses yeux et lui éclate un petit sanglot. Voilà, c'est ce récit de cette petite fille éternelle aussi, dont il a mission de dire la vie. Alors évidemment, c'est comme de l'art brut, c'est-à-dire c'est sur soi-même, mais j'aime beaucoup ces artistes-là aussi. Voilà. Et puis je pense que Lewis Carroll l'aurait beaucoup apprécié. Puis alors là, il y a des reliques. Alors c'est toujours des reliques animales, là pour l'instant, c'est beaucoup de crânes. C'est des crânes et des squelettes d'oiseaux que j'habille. Je fais des espèces de reliquaires. J'avais commencé pour une exposition au Musée des Arts Décoratifs à Paris qui s'appelait Beaurest. Et puis, tant que j'ai eu mon atelier à Paris, j'ai continué. Évidemment, c'est l'éloge des animaux, mais l'éloge des animaux de théâtre. C'est-à-dire, vous voyez, ils ont des accessoires, ils sont parés, ils ont des bijoux. J'aime beaucoup l'idée, et ça fait le lien avec la salle suivante, j'aime beaucoup l'idée des artistes, des animaux artistes ou des artistes animaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, dans la doxa actuelle, la chose est absolument interdite, on ne met pas un animal vivant sur une scène, ça serait... Voilà. À l'époque de Lewis Carroll, il a écrit un texte absolument splendide. Lewis Carroll est entré en colère contre... l'interdiction qu'on voulait faire aux enfants artistes. C'est-à-dire que la société victorienne préférait voir les enfants dans les ateliers malsains ou au fond de la mine plutôt que sur les scènes de théâtre, parce que bien sûr le théâtre c'est le péché, c'est la mauvaise vie, c'est tout ça. Alors que très souvent c'est des enfants issus vraiment de la pauvreté qui venaient, qui pour quelques shillings jouaient. Mais il raconte, parce qu'il y va souvent en coulisses, il raconte le bonheur de ces gosses qui étaient de vrais, véritables artistes avec leur trac avant d'entrer en scène à 4, 5, 10 ans. Et voilà que tout ça a été dans cette Angleterre.
Les interdits, c'est quelque chose.
Aujourd'hui, c'est pas mal. Hein. On a nos petits commissaires de la pensée aussi.
Vous êtes qui, vous, dit Alice?
J'aimerais bien le savoir.
Oh dear, je suis en retard. Oh no.
Et vous, là, à me tourmenter, vous êtes quoi? Regardez-vous, une pure fabrication bien pensante.
Arrête. Ça coule partout. Ça coule partout, toutes ces larmes. Stop this moment. I tell you, stop it. Stop it.
No place.
Animal crackers in my soup, monkeys and rabbits loop the loop. Gosh, don't you, but I have fun swallowing animals one by one. In every bowl of soup I see, like in me, I'd make a jump right through a hoop. Those animal crackers in my suit.
Salle 3, troisième installation d'un royaume imaginé par Masha Makeyev. Le temps se suspend, et avec lui pend un lustre de cristal. Toujours au plafond, quelque chose comme une dizaine de costumes sur cintre accrochés au passé. Masha est costumière, et dans cette pièce, en hommage au music hall, dans cet éloge du petit théâtre, de l'art forain des débuts du cinéma muet, dans cet espace où vocalise Joséphine Baker, elle affiche en suspension les costumes de son spectacle Les Apaches. Sur la gauche, la scène, l'estrade du petit théâtre qui accueillait un air d'accordéon dans la pièce Les Apaches, écrite donc et mise en scène par Masha. Les Apaches, clin d'œil au nom qu'on donnait à ces voyous dandys qui fascinaient tant les artistes au début du XXe siècle. On imagine un numéro de claquette, des bretelles qui claquent sur des pulls marinières, un singe en costume qui nous invite à faire un petit pas de côté. C'est au nord de notre droite, le nez en l'air. Alors à quoi ça ressemble, tous ces costumes ? Uniforme d'officier, tour de cou brodé, des broderies sur manches longues, courtes les robes fluides à sequins, paillettes, perles de verre, avec plis, fronces, franges, fentes, des plumes d'autruche sur des étoles, des tons rouges, gris, des souliers, et juste en dessous un escabeau de bois, et en dessous de l'escabeau de bois, un tigre blanc taxidermisé. La patte avant est suspendue, comme si rien n'était figé, les histoires en mouvement, le cinéma qui balbutie.
Donc là, on arrive dans la troisième chambre qui s'appelle Apache Paradis. C'est vraiment l'éloge du théâtre cette fois-ci. C'est l'éloge des Nickelodeon, c'est-à-dire au fond, ces lieux qui tenaient du music hall et du premier cinéma et où les artistes de music hall ont inventé le cinéma muet. Moi, j'ai toujours été fascinée, avant même d'avoir rencontré Jacques Tati, par cet univers-là, grâce au cinéma. Et pourquoi les Keaton, les W.C. Fields, les Chaplin, etc., étaient à cet endroit-là de l'écriture cinématographique ? Bah, c'est parce que, m'a expliqué Jacques Tati, ils ont tout appris sur la scène du music hall. Et puis on a commencé à tourner des petites bobines qu'on passait une fois parce que le cinéma était un art forain. Puis qu'après, on jetait. Et donc, c'est eux et c'est elles qui ont inventé le cinéma. Et donc, c'est vraiment l'éloge de ça. Colette fait cet éloge-là aussi. Et Jacques Tati, j'ai eu la chance de le rencontrer. Il m'a vraiment raconté ça. Et lui-même, au cinéma, je crois que si son cinéma est toujours aussi mythique et aussi apprécié, c'est précisément parce qu'il a les nombres d'or de la période qu'il faut exacte du numéro. Et donc là, c'est vraiment un spectacle que j'avais fait, le premier à la criée, qui s'appelait Les Apaches, qui faisait l'éloge de ces gens-là. Donc j'ai accroché les costumes là-haut parce que c'est l'occasion pour moi de m'interroger sur que deviennent les spectacles une fois qu'ils sont finis. Cette immense mélancolie, on porte un spectacle pendant 2 ans, on le joue partout, il nous préoccupe, il nous envahit, nous hante, chaque jour, chaque nuit, et puis un beau jour, on nous dit c'est terminé, c'est la dernière. Et alors, bon, moi, évidemment, dans mon fétichisme de fantôme, je garde, bien sûr, des accessoires. Là, j'ai pu conserver le théâtre des Apaches. Et voilà que, comme par miracle, il entrait dans cette pièce, au centimètre près. Vous voyez, on dirait qu'il est fait pour la pièce. Donc, j'ai mis sur scène un singe savant, puisque désormais, parce que c'est quasiment une transgression. Et puis, il y a le tigre qui a peut-être dévoré la danseuse. Et puis ici ou là, bon, les accessoires du spectacle qui racontaient aussi, comme Colette, de gare en gare, la vie de ces artistes saltimbanques. Il y a aussi une cabine téléphonique et là, c'était une partie du décor des Apaches. Et là, vous entendez ce qu'a fait Christian Sébille à partir des extraits de la bande-son du spectacle. Quelque chose d'extrêmement fantomatique aussi.
Des traversées sonores, encore une fois, de composition.
Le génie, Le génie de Christian, c'est que d'un lieu à l'autre, et même à l'intérieur d'une même pièce, les sons ne s'entre-dévorent pas. On entend la finesse de sa spécialisation qui fait qu'on entend tout.
Et ça n'est pas, encore une fois, ça n'est pas une paraphrase, mais toujours une co-invitation dans votre travail. Hein. C'est, la musique n'est pas quelque chose qui viendrait voilà, en illustration de votre travail, mais véritablement nourrir et avoir sa part.
On fait une création, vraiment. Et moi, j'aime tellement admirer les autres artistes, comme la lumière de François. Bien sûr que moi, je peux lui dire, je sens ça, mais c'est lui qui traduit.
Encore une fois, parfois il utilisait la lumière aussi beaucoup. Dans... Voilà, on est.
Dans chaque pièce, évidemment, il y a une atmosphère aussi lumineuse différente.
Voilà, qui peut être très. Dans vos créations, qui peut être très minimaliste, extrêmement dans la cesse des choses, dans une acuité particulière. Et puis aussi dans quelque chose de très. Presque. Voilà, c'est ça.
J'ai habillé le petit singe que le muséum m'a prêté, m'a autorisé à lui mettre des plumes et des paillettes. Voilà.
Un singe plumé.
C'est donc vraiment, vous voyez, c'est des choses que je veux absolument partager, qui sont évidemment une part intime de ce qui constitue ma vie, mon quotidien et ce qui s'est construit, mais c'est aussi une proposition à l'imaginaire de l'autre. Voilà, parce que celui qui n'a pas vu les Apaches, un petit bonhomme qui arrive et qui écoute ça, là, il y a Josephine Baker, qu'est-ce qu'il en pense de ce petit théâtre? Est-ce qu'il rêve d'y monter? Il a sa taille en plus. Voilà, c'est cette chose insaisissable qui m'intéresse et que moi, après coup, j'imagine aussi.
Et en même temps, sans avoir forcément ni les codifications, ni les références, parfois, le spectateur ou le visiteur, comme vous dites de façon très jolie, déambule et puis après, il s'approprie aussi cette...
Voilà, s'il a envie de lire, bah, il peut lire ce que c'était qu'un Nickelodeon, il peut lire que... Tous les rituels frénétiques du théâtre, toutes nos folies, le fait d'avoir de placer les accessoires au même endroit, au millimètre près, tout ce qui fait depuis des siècles qu'on agit tous de la même façon, on fait les mêmes gestes au même moment, et il y a un espace-temps pour le créer. Voilà, c'est presque de l'ordre, il y a une part magique, dirait Michel Léris.
J'allais dire aussi, c'est ça, une part magique, une part d'enfance, c'est la même, c'est un peu la.
Il y a aussi des règles. C'est-à-dire que, oui, il y a une ritualisation. Dans le rituel, il y a quelque chose auquel on n'échappe pas. Parce qu'il faut en passer par là. C'est des chemins par lesquels passer.
J'allais dire rigueur, effectivement, oui. Rigueur. Et en même temps, toute cette part très technique aussi qui vous habite, qui vous porte, pour pouvoir être dans l'éphémère dont vous parliez, dans cette magie de. Un objet, ça marche ou pas, mais l'espace de la représentation, c'est pareil, ça fonctionne ou pas. Et finalement, les choses ont l'air d'être les mêmes, mais toujours elles échappent.
Oui, oui, il y a quelque chose de... C'est justement, précisément, ces dés qui sont jetés chaque soir et à chaque moment, qui font notre... Comment dire, ce qu'on a... Bien sûr, on peut appeler ça le trac, mais qui font qu'on est toujours un peu dans le vertige. Voilà. Mais aussi, quand je pose des objets, c'est le même état, en fait. La récolte, c'est déjà un état un peu passionnel, comme ça, un peu fou, un peu presque mystique. Et puis, là aussi, quand je pose des objets, oui, il y a quelque chose, une sensation, enfin, quelque chose qui me prend de très étrange. Mais c'est aussi en attendant le regard des autres, en attendant le corps des autres, la déambulation des autres. Ça me... C'est en vue de cette rencontre que ça m'intéresse. Voilà.
Le processus de création, ça a quelque chose à voir avec Mallarmé, ce côté le jeu de dés et le hasard et tout ça.
Oui, le hasard dans l'art et même la maladresse, c'est une chose extrêmement précieuse, même en répétition. C'est-à-dire un acteur, une actrice qui se trompe, c'est quelquefois un état de grâce, il faut l'attraper. Et si on réussit à reproduire la chose, parce que quelquefois c'est... Là aussi, les dés sont jetés une fois et c'est beau et ça revient plus jamais. Mais là, l'art de l'acteur, c'est de savoir reproduire. Et si on reproduit, c'est magnifique. Mais le hasard, l'erreur qui est comme presque préméditée. Voilà, moi je crois beaucoup à la préméditation, justement, comme les Apollinaires, comme ces gens-là. Si on prémédite beaucoup quelque chose, voilà, et qu'on se met au travail, il se passe quelque chose de cet ordre-là.
Et dans la rencontre, y compris aussi avec les personnes avec qui vous travaillez, je pense les comédiens sur scène, le choix, etc., il y a quelque chose aussi de ce bouleversement entre la beauté, par exemple, j'entends au sens poétique de l'être, hein, pas que physiquement, bien sûr, et en même temps, les failles de la personne, ce côté, oui, toujours... Et c'est ça, la beauté, après, c'est ce mélange.
Là, en parlant de hasard...
Il y a plein d'erreurs, on se trompe, vous faites une distribution, vous pensez que c'est la meilleure du monde, et puis là, par exemple, pour Tartuffe, j'ai deux comédiennes, coup sur coup, à 3 jours, qui m'annoncent qu'elles attendent un enfant et qu'elles sont absolument divisées, mais qu'elles choisissent l'enfant plutôt que le spectacle. Donc, il a fallu que je rencontre d'autres comédiennes, et puis, du coup, le spectacle s'est un peu tourné, comme ça. Mais c'est aussi un cadeau, évidemment, que j'ai eu j'ai eu un pincement au cœur, parce que j'aimais beaucoup ces comédiennes, et en même temps, elles ont apporté quelque chose, déjà. Ce qu'elles ont apporté, c'est... même si elles n'ont jamais joué, c'est présent en moi, dans la construction, l'imagination de chaque personnage, elles sont là, Caryl et Sarah Jane. Et en même temps, d'autres ont repris le relais, et elles inventent autre chose. Et le théâtre, c'est là. Et ce qu'on sent ici, moi, c'est que je pense à plein d'acteurs. Par exemple, quand je commence à répéter, je pense à Yolande. On évoque beaucoup Yolande, on évoque des gens que j'aime beaucoup, des acteurs. Là, je parlais beaucoup de Cazares, parce que j'ai une admiration infinie pour cette femme et cette comédienne. Et voilà, et on les convoque, et puis il y a une espèce de... À 20 ans, on croit qu'on invente une sorte de théâtre, mais en fait, on s'inscrit dans une tradition, voilà, et on est dans un continuum.
Qui plus est, qui, comme vous le dites, à la fois fait des choix et en même temps est obligé de faire avec ce que la vie amène, comme le coup.
Il éloge du hasard dans ce qu'il a de quelquefois de redoutable. Quelquefois, il vous oblige à casser quelque chose pour construire autre chose. Mais moi, je l'accueille généralement. Je suis pas.
J'allais dire, ça dit quelque chose de très fort aussi de la femme d'orchestre que vous êtes aussi, de devoir accueillir en permanence toutes ces choses du vivant.
La fragilité, c'est ça aussi. Et vous savez, les gens que j'admire nous montrent la voie de ce point de vue-là, tous ces peintres qui vous disent, mais oui, c'est parce que ça a goûté que du coup la vie est arrivée à la surface de la toile. Voilà, il faut avoir aussi cette modestie-là de laisser les choses faire et se faire.
Troubles faits, collections curieuses et choses inquiètes, c'est un peu tout ça. Animaux convoqués d'éternité, énigmatiques rêveries, fragments de déballage, patines, lustres, fantaisies de choses, des collections, des récoltes. Alors, que deviennent les spectacles quand tout est plié ? Objets déclassés, objets célébrés, objets nommés donc reconnus, objets mémoire dans les tiroirs du temps, entre les pages des récits d'une vie, loin des impostures, protégés par la musique des petits masques du jeu quand le théâtre rit dans le ciel de nos imaginaires. Macha et son jardin secret conçu comme une œuvre, son invitation apprivoisée, où le théâtre est un remède aux ellipses, où chaque empilement fait sens. Vous savez quoi ? Pour aujourd'hui, on s'arrête à la salle 3. Dans notre prochain épisode, on poursuivra la visite et on complétera la lecture de cet univers.
Du vent dans les pages, numéro spécial, Macha Makeyev.
Thank you. Ce chaos de l'enfance a donné le désordre de mes rêves actuels, mes impatiences, mes chemins de traverse néfastes et douloureux où je me perds. Un dimanche, on m'avait coupé les cheveux courts. Les longues mèches tombaient dans une serviette posée au sol. Georges a pleuré. Un bout de soie de son corps, c'était mort ou vivant. À qui ça appartenait à présent? Ça se jette, les cheveux? Je les ai enterrés dans le jardin. Et puis, on détestait retirer nos souliers. On résistait chaque soir au coucher. On les a parfois remis dans le lit en douce.
Co-réalisation et sound design, Stephen Joly. Voix off, François Nicolas. Merci au Palais de l'Archevêché d'Aix-en-Provence pour son accueil. Merci à Macha Makeyev pour ce partage et le supplément d'âme.